Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillez dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
Varda Etienne est avec nous comme elle l'est tous les jours vers à peu près 11h. Varda, bonjour.
Salut Benoît.
Je viens de lire ça sur lapresse.ca. Le premier ministre haïtien Ariel Henry qui congédie le procureur général Bedford Claude, qui avait demandé quelques heures plus tôt qu'il soit inculpé pour le meurtre du président Jovenel Moïse en juillet. Ça va bien, t'es accusé de quelque chose, tu vires le procureur, puis là, tu dois être innocent?
Non, mais, tu sais, Benoît, je le dis, je l'ai répété, moi, Haïti, je suis découragée, je suis déçue, et honnêtement, en étant quelqu'un qui je me considère comme une éternelle optimiste, je le suis plus lorsqu'on parle d'Haïti, et Dieu seul sait à quel point j'adore ce pays, même si je n'y suis pas née. Alors là, tu viens de mentionner Bedford Claude, le ministre de la Justice, mais il a aussi destitué deux autres hauts responsables. Il y a Rénal Lubéris, qui lui a une guerre ouverte avec Ariel Henry, qui est secrétaire général du Conseil des ministres. Il y a aussi Rockefeller Vincent, qui est ministre de la Justice. Écoute, c'est pas compliqué, Benoît, c'est une guerre d'égo. C'est une guerre d'égo parce que ces trois personnes que je viens de mentionner, ces trois hauts responsables, ont la même inspiration que Ariel Henry, premier ministre, c'est devenir président de la République d'Haïti. Il y a aussi M. Lambert, qui est président du Sénat, qui veut lui aussi devenir président.
Mais question niaiseuse, pour en faire quoi?
Ben, pour faire comme tous les autres qui étaient là avant, comme leurs prédécesseurs, c'est-à-dire de pouvoir profiter, de pouvoir continuer la corruption, parce qu'on s'entend. Je veux dire, c'est dur à admettre, Benoît, mais Haïti est corrompu jusqu'à la moelle, et ce, depuis le temps des temps, depuis la dictature sur Duvalier père, Duvalier fils, ceux qui les avant, après. Il n'y a personne en Haïti qui a été au pouvoir, qui a fait quelque chose de bon pour le pays. Ce sont tous des dictateurs assoiffés de pouvoir, qu'ils n'en ont rien à cirer de ce qui se passe avec le peuple. C'est le peuple haïtien, a beau être résilient, a beau être courageux, à un moment donné, trop, c'est trop. Le taux d'analphabétisme en Haïti est incroyable. Les gens ne mangent pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité courante. Mais en attendant, tu as les Michel Martelly de ce monde, tu as Duvalier, tu as tous les autres aussi, Henri Namphy, tous ceux qui sont passés au pouvoir vivent comme des rois. Comment se fait-il que le pays le plus pauvre de l'hémisphère nord, ceux qui ont gouverné le pays, sont multimillionnaires?
Et puis on en retrouve ici, on en retrouve quelques-uns au Québec aussi. Là.
Bien sûr, mais il y a M. Célestin qui s'était acheté une propriété de 4 millions de dollars. Je veux dire, c'est pas rien. Payé cash, pas d'hypothèque. L'argent vient
d'où? C'est une grosse valise, ça. Hein?
Et il n'est pas le seul. Mais tu sais, on peut comprendre lorsque les gens font des dons. On va parler au Québec, par exemple, suite au tremblement de terre, suite aux inondations qu'il y a eu au Benaïm. Puis on réclame, on demande de l'aide aux gens et les Québécois répondent toujours présents et sont très généreux. L'argent est où? L'argent va où?
Ouais.
Ben, on ne le sait pas et on présume, et de toute façon, on a quelques preuves, que cet argent-là se retrouve dans les poches de tous les gens que je t'ai nommés et leur entourage, parce qu'ils ont un vaste entourage. Ils ont femmes, enfants, maîtresses, amis, cousins. Tout le monde profite des largesses de ceux qui ont le pouvoir d'octroyer ces montants-là. Et en attendant, qui paie le prix? Ben, c'est le peuple. Parce que pour avoir été... Moi, tu sais, Benoît, avant la pandémie, moi, je suis quelqu'un qui va en Haïti 4-5 fois par année. Moi, comme je te l'ai dit, j'adore ce pays. Mais c'est quand même d'une tristesse sans nom de voir à quel point le pays est dans un état lamentable.
Mais la situation là à laquelle on fait face là à l'extérieur du pays là d'Haïti, c'est soit de l'indifférence, c'est soit de l'ingérence. Fait que tu veux ni un ni l'autre. Alors qu'est-ce que tu fais?
Ben tu fais rien. Alors tu restes les bras croisés puis tu soupires en espérant un miracle. Mais je veux dire, tu sais que en Haïti, le peuple est un peuple très croyant. Il y a le catholicisme bien sûr, il y a les protestants et tout ça, puis il y a bien sûr le vaudou aussi qui est une religion. Et tout le monde prie, tout le monde attend. Attend quoi? La venue du Messie qui se fait attendre depuis plus de 100 ans. Moi je dis toujours, Benoît. Même si j'éprouve énormément de fierté qu'Haïti a été la première république noire à obtenir son indépendance en 1804, c'est une indépendance qui nous a coûté la peau des fesses, qui nous coûte très cher aujourd'hui encore. Le pays est pillé. C'est un pays qui possède énormément de ressources naturelles. Bon, les Français sont passés, les Brésiliens, les Chinois, tout le monde passe, tout le monde se sert. Et puis, il n'y a pas de loi. Tu fais ce que tu veux, c'est un pays de cow-boy. Tu fais ce que tu veux.
Mais j'ai de la misère, Varda, à comprendre. Je pense que les preuves s'accumulent face à Ariel Henry. Et là, j'apprends, je savais même pas ça, moi, qui a été désigné premier ministre d'Haïti 2 jours avant l'assassinat de
Jovenel Moïse, bien sûr. Alors, Jovenel Moïse a été assassiné dans la nuit du 6 au 7 juillet. Effectivement, il avait été nommé 2 jours avant. Mais la raison pour laquelle on demande que le premier ministre Ariel Henry soit lui aussi destitué, c'est parce que, paraît-il, il a eu 2 appels téléphoniques passés dans la nuit de l'assassinat de Jovenel Moïse avec Joseph-Philippe Badiou, qui lui est aussi présumé et qui fait partie de ceux qui sont accusés d'être responsables de l'assassinat de Jovenel Moïse, parce qu'on doit se rappeler, il y a eu un commando colombien avec 28 personnes, mais comme je t'ai dit tout à l'heure...
Il n'y a pas un policier de la garde rapprochée de Moïse qui a été blessé.
Dimitri Erard, qui était le chef de la sécurité de Jovenel Moïse, qui est encore incarcéré aujourd'hui, qui devait d'ailleurs passer devant le juge lundi, mais il n'y avait pas d'électricité, donc... il n'y avait pas d'électricité, donc il ne s'est rien passé. Mais tu sais, Benoît, moi je demeure convaincu, il n'y a personne qui va me faire croire le contraire, que cette histoire d'assassinat, c'est plus gros qu'Haïti. C'est-à-dire que Haïti n'a pas les moyens, et même l'élite haïtienne n'a pas les moyens à elle seule de mettre un coup de cette ampleur-là sur pied. Ils ont eu besoin d'aide extérieure, et moi, je n'ai pas peur de le dire, je pense que les Américains sont dans le coup, je pense que les Français sont dans le coup, je pense que le Venezuela est dans le coup, je pense que la Colombie aussi est dans le coup. C'est plus gros qu'Haïti. Comment veux-tu assassiner un président d'un pays?
Mais pourquoi? C'est quoi l'intérêt des États-Unis, de la France?
Benoît, Haïti est l'une des plaques tournantes de la drogue dans le monde. C'est connu. Je veux dire, la Colombie c'est fréquent. La Colombie envoie l'argent, envoie la drogue en Haïti, ensuite qui est distribuée un peu partout. C'est connu.
Ce qui explique les 18 Colombiens qui ont participé à l'attentat.
28. Ah oui, oui. Voilà, oui. Et puis on s'entend. Et moi, je pense aussi que ces Colombiens-là, je pense qu'ils se sont fait framer, permets-moi l'anglicisme. C'est une excuse. Il y a des membres de l'élite haïtienne, il y a certaines familles haïtiennes qui sont richissimes, Benoît. Et lorsque je dis richissimes, on parle de 50, 60, 100 millions en argent liquide. Ça, c'est sans compter les actifs qu'ils ont au Canada, aux États-Unis, en République dominicaine. Je veux dire, ces gens-là qui en avaient contre Jovenel Moïse, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est les traîner en justice. On n'a qu'à penser à Dimitri Vorbe. Dimitri Vorbe et sa famille, la famille Vorbe, qui est l'une des familles les mieux nanties d'Haïti, c'est lui qui contrôle l'électricité, c'est lui qui distribue l'électricité. Donc, à un moment donné, Jovenel Moïse, je lui dis, mais attends, c'est pas possible. T'as un contrat de 40 millions de dollars par mois, j'ai bien dit par mois, mais 95% de la population n'a pas accès à l'électricité. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?
Comment t'expliques qu'il y ait peu de voix comme la tienne, Varda, pour dénoncer ce qui se passe au détriment du peuple haïtien?
Parce que ceux qui dénoncent, comme moi, comme les autres, la majorité des gens qui dénoncent sont les membres de la diaspora. Mais on est impuissants. Tu veux qu'on fasse quoi, Benoît? Alors nous, on va aller en Haïti et prendre la chance de se faire descendre en sortant de l'aéroport? Il y a ça aussi. Parce qu'il y a aussi beaucoup de kidnappings en Haïti. Il y a beaucoup d'assassinats d'innocents. Parce que le peuple est révolté. Le peuple a faim. Le peuple a soif. Le peuple veut un endroit décent où est-ce qu'il puisse, se poser avec ses enfants. Que les écoles soient fermées. C'est pas normal. Comment se fait-il que, à 2 heures de l'après-midi, quelqu'un qui marche sur la rue, sur Delma, qui est, bon, je compare ça à n'importe quel boulevard au Québec, se fasse descendre? Ben, sans raison. Et que les chefs de gang contrôlent le pays. Ces chefs de gang-là sont armés jusqu'aux dents. Qui leur donne les armes? Ben, c'est l'élite. C'est payé par l'élite qui a les moyens de les payer. Donc, qu'est-ce que tu veux faire avec un pays comme ça? Tu sais quoi, Benoît? Et je vais le dire, et je vais assumer mes paroles, comme je fais toujours. Haïti mérite d'être mis sous tutelle. Voilà ce qu'Haïti mérite. Malheureusement, on en est là. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ou ça prend un Fidel Castro. Voilà ce que ça prend. Parce que c'est pas normal. Je veux dire, plus ouais. Ça change, plus c'est pareil. C'est de pire en pire en pire. Il n'y a aucun espoir pour ce pays. Un pays si beau, si magnifique, avec un peuple chaleureux, résilient, mais qui en a marre, Benoît. Qui en a marre, et avec raison.
Et qui, en plus, est frappé par des catastrophes naturelles.
Ils sont à l'abri de rien. Quand c'est pas un gouvernement corrompu, c'est des tremblements de terre, ça n'arrête jamais. Et ce qui est encore plus triste et révoltant, c'est qu'à côté, donc la République dominicaine qui partage l'île d'Hispaniola avec Haïti,
ouais. Ben
on se croit à Miami.
Et moi, je me souviens d'un article de magazine Varda qui montrait une photo satellite de l'île, là, de la République dominicaine et Haïti. Et la ligne entre les deux pays, tu vois la déforestation en Haïti, parce que ça n'a pas été géré. Puis en République dominicaine, ils ont préservé la forêt.
Oui, bien sûr, parce que nous, hein, on ferme notre gueule, le peuple haïtien ferme sa gueule, et comme je te dis, on se fait piller nos ressources naturelles, et rien n'y fait. Je vais te donner un exemple rapide.
Oui.
Juste la famille Clinton. La famille Clinton, on le sait, ils ont une fondation qui, soi-disant, a été mise en place pour venir en aide à Haïti. Tout le temps, Bill Clinton parle au nom du peuple haïtien en disant que oui, on ne mérite pas ce qui nous arrive, notre triste sort et tout ça. Mais ce qu'il oublie de dire, Bill Clinton, c'est que son beau-frère, le frère de Hillary Clinton, ben, il est propriétaire d'hôtels en Haïti, des hôtels de luxe à l'Abadie, à l'île Lavache, que même Bill Clinton et sa femme Hillary ont des usines. Mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas.
Ah ouais.
Alors, tu vois le degré de corruption? Et la République dominicaine, de toute façon, la République dominicaine, on n'a rien à cirer d'Haïti. On n'a rien à foutre d'Haïti. Premièrement, il y a beaucoup de travailleurs qui vont bosser en République dominicaine, qui sont exploités dans les batés, qui sont battus, qui sont assassinés. Et puis, il y a tout ce problème de racisme entre la République et Haïti. Parce que il y a une grande partie de la population dominicaine qui ne se considère pas comme des blacks.
Varda.
Ah oui, non, mais ça attend, là, on pourra en parler pendant des années.
Non, faut qu'on se quitte, là, mais là, qu'est-ce qui arrive, là? Ariel Henry va contrôler le système, le droit, la prison, va contrôler le pays.
Ben oui, ça va faire quoi? Qu'est-ce que les gens peuvent faire? Ils règnent en roi et maître en Haïti.
Sans justice.
Oui.
Écoute, matière à réflexion, hein, face à Haïti. Merci, Varda. On se reparle demain.